Le chef de l'État vient de prendre une série de décisions portant suspension de certains mandataires de l'État. Il s'agit du ministre des Affaires foncières suspendu pour insubordination, du président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications ARPTC en sigle suspendu pour mauvaise gestion, les DG et les DGA de la Société Congolaise des Transports et Ports STP en sigle ex-ONATRA sont aussi concernés par cette décision rendue publique ce mercredi à la télévision nationale par le directeur de cabinet du chef de l'État. Quelle analyse faire de cette décision du président de la République? Nous avons dans ces studios Maître Gabin Loulendou, il est avocat, il est porte-parole adjoint de l'INC, membre de la coalition CAP vers les changements, CACH en sigle. Bonsoir Maître Gabin Loulendou.
Bonsoir, bonsoir.
Madame Angèle Makombo, présidente nationale du parti politique Ligue des démocrates congolais, LIDEC en sigle. Bonsoir Madame Angèle Makombo.
Bonsoir Monsieur Maté.
Et lui est au téléphone, c'est Maître Omar Kigalou, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est analyste politique. Bonsoir Maître Omar Kigalou.
Bonsoir Maître Guy Maté, bonsoir mes co-débatteurs.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le chef de l'État vient de prendre une série de décisions portant suspension de certains mandataires de l'État. Quatre mandataires sont concernés, à savoir les ministres des Affaires foncières, les présidents de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications ARPTC, en sigle, le DG et le DGA de l'ex-ONATRA. Les points avec Alain Hirung.
Le directeur de cabinet du président de la République a annoncé plusieurs suspensions. D'abord celle du ministre des Affaires foncières, Loumé Adou Malegui, pour insubordination. Un dossier judiciaire sera ouvert à son encontre, a-t-il ajouté. Joint par actualité.cd, le ministre incriminé s'est dit victime d'une cabale politique. Il affirme qu'il n'a jamais été notifié d'une quelconque décision lui demandant de rapporter les arrêtés incriminés. Et Loumé Adou Malegui de poursuivre, je cite, « l'insubordination a une sanction administrative ». Je ne vois pas pourquoi on veut me traduire en justice devant le procureur général près la Cour de cassation. Je crois que si ce n'était pas politique, il devrait me laisser en liberté pour que je puisse faire valoir mes droits. Fin de citation. Une autre suspension vise ensuite le président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications ARPTC. Il lui est reproché la mauvaise gestion. Enfin, sont également suspendus pour mauvaise gestion le directeur général de la Société congolaise des transports et ports SCTP. Ex-ONATRA et son adjoint. En réaction, le professeur Daniel Moukoko Samba, DG de l'ex-ONATRA, affirme sur Twitter « Je suis confiant que l'audit externe de ma gestion actuellement en cours établira clairement les responsabilités. » Pour sa part, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, a souligné que ces mesures importantes qui ne sont que les premières traduisent la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de mettre fin à l'impunité.
Merci à vous Alain Hirung, Maître Gabin Loulendou, vous êtes avocat, vous êtes aussi porte-parole, adjoint de l'INC, membre de la coalition CAP vers les changements. Quel sens vous donnez à toutes ces décisions portant suspension de ces mandataires publics?
Vous savez, les Anglais disent que the game is over, donc fini la blague, les jeux est terminé, tolérance zéro à l'égard de ceux qui ne comprennent pas qu'effectivement les choses sont en train de changer, une nouvelle dynamique s'est mise en place pour lutter contre les antivaleurs, la mégestion, la corruption et toutes sortes d'actes illégaux, eh bien le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de montrer la ligne à suivre. Cette ligne veut dire que désormais, personne ne devra se considérer comme intouchable. Ça veut tout simplement dire, vous volez l'argent de l'État, vous vous comportez de façon illégale, eh ben, la loi va s'occuper de vous. C'est ça les grands messages qu'il laisse à travers ses ordonnances, à travers ses décisions qui ont été prises pour dire que désormais, personne ne devra être au-dessus des lois de la République.
Personne ne devra être au-dessus des lois de la République, comme vous le dites. Le ministre Lumea Dumalegui, qui est aussi mis en cause, n'est-ce pas, à travers ses décisions, affirme ne pas savoir ce qu'on lui reproche, parce que officiellement l'on parle d'insubordination. Lui ne reconnaît pas avoir commis l'insubordination dans ce sens qu'on ne lui a jamais envoyé, n'est-ce pas, une correspondance dans laquelle on lui demanderait, n'est-ce pas, de rapporter les arrêts incriminés.
Mais d'abord, quand il s'exprime en ce terme-là, vous allez vous rendre compte que déjà le 7 mai 2018, ces ministres avaient reçu une correspondance du Premier ministre, l'actuel Premier ministre, M. Bruno Tshibala, et dans cette correspondance, on lui reprochait un certain nombre de faits, notamment les
faits... Le 7 mai sous le régime Kabila.
Oui, une correspondance datant du 7 mai signée par le Premier ministre Bruno Tshibala, des reproches avaient été faits à ces ministres par rapport à son comportement, parce que plusieurs plaintes avaient été enregistrées par les particuliers par rapport à leurs droits des propriétés, etc. Ils gèrent les affaires foncières de façon cavalière, avec un comportement répréhensible, et les éléments existent. C'est ainsi que si vous lisez la lettre datant du 7 mai 2018, non seulement le Premier ministre lui a adressé une mise en garde, mais rappelait les faits que un certain nombre de choses lui avaient déjà été reproché verbalement, et on a constaté qu'il n'y avait pas un changement et que cette lettre-là valait la mise en garde. Déjà le 7 mai 2018. Et après, il est parmi des gens qui ont été convoqués à la présidence de la République par rapport à plusieurs plaintes qui avaient été enregistrées. Il lui avait été demandé de rapporter certains arrêtés qui avaient été pris, notamment créant...
Ça, c'est pendant le régime Tshisekedi.
Félix Tshisekedi, créant certains lotissements dans des endroits interdits. Et si vous suivez de près, vous allez vous rendre compte que d'une façon ou d'une autre, il est impliqué. Parce que dans ce pays, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous êtes ministre des Affaires étrangères, chaque fois que vous avez créé un lotissement, eh ben, vous octroyez un certain nombre des parcelles, etc., même si ce n'est pas directement par vous, mais par l'entremise vos collaborateurs, ou en tout cas des gens à qui vous avez confiance, etc. Donc, bref, c'est pratiquement un récidiviste, donc il n'est pas son premier forfait, parce que je fais allusion à la lettre de l'actuel Premier ministre. Donc ça veut tout simplement dire qu'il existe des éléments sérieux à sa charge. Encore que lorsque lui-même dit qu'il fallait qu'on lui permette de faire valoir ce droit, mais justement...
Est-ce qu'on lui a donné l'occasion de présenter le moyen de sa défense?
Mais attendez, il a été entendu, il lui avait été demandé de rapporter bien évidemment ses arrêtés.
Apparemment il ne reconnaît pas tout ça, hein?
Mais il a déjà reconnu quoi? Parce que je vous dis, il y avait déjà une lettre du Premier ministre. Non seulement dans cette lettre, le Premier ministre signalait qu'à maintes fois, des reproches verbaux lui avaient été déjà faits et qu'il est resté, sans réagir positivement, et que par la suite, une lettre... Donc, c'est dans ses habitudes. Le problème, c'est que, comme avant... Il pouvait se comporter de cette façon-là sans attendre qu'il y ait vraiment des conséquences. Mais les nouvelles autorités, en particulier le président de la République, a dit « Assez, c'est assez. Il est maintenant temps de pouvoir agir. C'est pour cette raison qu'il aura l'occasion de faire valoir ses droits. » Parce qu'il n'est pas encore condamné. Il va juste être mis à la disposition de la justice. C'est à la justice de faire son travail en toute indépendance.
Et le professeur Moukoko Samba, de l'ex-ONATRA, sur qui pèserait, n'est-ce pas, des indices sérieux d'actes de mauvaise gestion, réagit en disant « Je suis confiant que l'audit externe de ma gestion actuellement en cours établira clairement les responsabilités. »
Oui, mais nous apprenons des choses incroyables. Il y a même une ONG qui a dit qu'entre 2011 ou entre 2012-2016, 50 millions de dollars auraient été détournés au niveau des LCPT. Vous entendez? 50 millions de dollars auraient été détournés. Ça veut tout simplement, vous avez vu des manifestations, des marches. Il y a même, semblait-il, un prêt qui avait été contracté auprès d'une banque de la place pour pouvoir revitaliser l'entreprise Lonatra. Il semble qu'on a hypothéqué pas mal des maisons de l'État, en tout cas de Lonatra, pour que finalement on puisse redynamiser Lonatra et que, en étant en bonne santé, Lonatra peut être en mesure de pouvoir rembourser les prêts, etc.
Aujourd'hui, mais Clabin, face à ces indices, n'est-ce pas, des détournements, qu'est-ce qui a été mené comme démarche par les causes étudiantes? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées?
Ah, mais justement, c'est cela, c'est à ce niveau que nous ne comprenons absolument rien. Des gens pour des manifestations pacifiques sont arrêtés et croupissent en prison, alors qu'il y a des gens qui détournent l'argent du contribuable congolais, alors que le procureur pouvait bien se saisir de l'affaire, le procureur général de la République pouvait bien se saisir de toutes ces affaires. On s'est rendu compte que les lignes n'ont pas bougé. Est-ce que nous allons continuer à faire la même chose en pensant que les résultats vont être différents? Pas question. Si nous faisons la même chose, les résultats seront les mêmes, et peut-être catastrophique que c'est à quoi on a assisté jusque-là. C'est pour cette raison que le président de la République a pris ses responsabilités en tant que garant du bon fonctionnement des institutions en disant « Enough is enough, maintenant nous devons passer à des choses sérieuses ». Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de son mandat.
Quatre mandataires sont mis en cause, mais deux, les DG de l'ex-ONATRA ainsi que le ministre Lumea disent n'avoir pas été notifiés à ce sujet.
Non, mais le vrai problème, c'est que concernant le ministre Lumea, le président de la République a donné l'instruction, parce qu'en réalité, le président de la République ne peut que prendre l'acte des révocations. Comme il s'agit de la suspension,
Est-ce qu'ils ont été informés au préalable par rapport à cette décision portant suspension de ces personnalités?
Le président de la République, la suspension, c'est une mesure préventive. Ce n'est pas une sanction, c'est une mesure préventive. Donc, lorsque on vous suspend, c'est pour besoin d'enquête, c'est pour que les choses évoluent normalement. C'est ainsi que le président de la République a instruit le Premier ministre de pouvoir prendre l'acte des suspensions et ensuite, il doit être déféré devant le cours des tribunaux pour qu'il s'explique sur les faits irrépréhensibles qui lui sont reprochés.
Merci.
Mais concernant les DG des CPT, écoutez donc... Il a également été décidé que, effectivement, à travers le portefeuille, le Premier ministre ainsi que le portefeuille, qu'il soit également suspendu et qu'il soit mis à la disposition de la justice.
Merci, Madame Angèle Makombo, présidente nationale du Parti politique Ligue des démocrates congolais, LIDEC en sigle. Comment vous avez accueilli ces différentes décisions?
Eh bien, j'ai suivi le directeur de cabinet du président Vital Kamerhe. Et le mot qu'il a dit comme commentaire, la récréation est terminée. Et ce mot, on l'a déjà entendu dans le passé, notamment le gouvernement précédent. Et on peut dire, on l'a entendu, est-ce que cette fois c'est du sérieux? Eh bien, c'est du sérieux. Parce qu'on nous le disait, récréation terminée, mais dans les faits, les exactions continuaient, l'impunité continuait. Et là, voir que des personnalités comme celle-là, le ministre, des DG, après enquête, on les suspend et on les porte comme ça devant la justice, c'est bien une première dans notre pays. Et je pense que si vous avez même... interroger, discuter avec l'homme de la rue aujourd'hui, c'était un étonnement et on se dit le changement c'est maintenant. Et ce qui est scandaleux, c'est de voir effectivement que depuis des années, ce genre de pratiques, à la limite des pratiques mafieuses, mais qui sont bien documentées, des pratiques dont nous sommes alertés par la presse, n'étaient laissées totalement comme ça impunies. Le procureur de la République s'en saisissait pas. Et voir aujourd'hui que ce pas est franchi de dire « oui, le ministre a pris des actes en violation de la loi », le ministre a été s'est montré, n'a pas respecté les autorités, la hiérarchie, a fait preuve d'insubordination, que telle autorité d'une entreprise publique a fait la même chose, et que maintenant, il faut mettre fin à ça, même si il faut que la présomption d'innocence joue, mais on les a suspendus. Eh bien, ça, c'est une première. Je pense que toutes les entreprises publiques devraient faire aujourd'hui l'objet d'un audit. Et je pense d'ailleurs, le directeur de cabinet l'a dit, ce n'est que le début. Hein, nous avons pris le temps qu'il fallait, ça a pris un mois, mais sachez que ce n'est que le début. Et on ne peut pas s'empêcher de dire que effectivement c'est vraiment la pointe du iceberg, parce que quand on voit la grogne sociale monter dans le pays, où entreprise après entreprise, les employés se plaignent de 10 mois, 20 mois, 30 mois de salaire impayé, et alors qu'ils sont dirigés par des dirigeants d'entreprise qui, eux, de façon familière, cela coule douce. Non, il fallait mettre fin à ça. Et c'est vraiment symptomatique d'un climat délétère dans notre pays. Dans tous les domaines, c'est comme ça. On sait que l'argent de l'État s'envole, s'enfuit, et c'est documenté, mais on ne fait rien.
Voilà, il faut combattre l'impunité. Mais vous ne pensez pas que mettre fin à l'impunité passerait aussi par le respect des principes et des procédures, n'est-ce pas, qui sont consacrées par les différentes lois, parce que ces mandataires qui sont mis en cause ici affirment ne pas connaître les faits qui leur sont reprochés, d'autant plus qu'ils n'ont jamais été notifiés à ce sujet. Il y a même les ministres des Affaires foncières qui pensent même que l'insubordination a une sanction administrative et non pénale.
Qu'ils aient dit le contraire m'aurait étonné. Dire, écoutez, je plaide coupable de tous les faits.
Ça vous aurait étonné.
Voilà. Donc, c'est leur moyen de défense. C'est un moyen de défense plutôt maladroit. Je pense que le temps a été pris, un mois, pour justement enquêter, documenter. Eh bien, maintenant, ils sont suspendus, ils seront devant la justice, ils pourront faire valoir leurs droits, se défendre. Mais en tout cas, c'est un signal fort et qui redonne confiance dans les leaders. Et on se dit, enfin, comme je le disais tout à l'heure, le changement, c'est maintenant.
Oui, vous avez dit que vous avez suivi le directeur du cabinet du chef de l'État hier à la télévision nationale, et il affirmait que lorsque le Premier ministre ne sait pas prendre des décisions, le chef de l'État s'assume. Et Madame Angèle Macombo, cela veut dire qu'il y aurait aussi à ce niveau-là, au niveau du Premier ministre, une sorte d'insubordination. Comment vous expliquez ces cas d'insubordination à tous les niveaux?
Ça prouve que vraiment on avait touché le fond. Parce que quand le Premier ministre, on l'instruit de faire une action, et cette action s'inscrit justement dans le respect de la loi, et que ce Premier ministre ne le fait pas, ça prouve, comme je le dis, qu'on avait touché le fond, qu'il y a un dysfonctionnement dans nos institutions, et que le chef de l'État, qui est le garant des institutions, la clé de voûte de notre système étatique, c'est lui qui doit maintenant taper du poing sur la table.
Alors, madame, et il l'a fait. Quel intérêt, à votre avis, quel intérêt le ministre qui est mis en cause, ou le Premier ministre, quel intérêt ils auraient, n'est-ce pas, à ne pas obtempérer aux décisions du chef de l'État? Quel intérêt ils auraient?
Il faudrait peut-être leur demander. Mais moi, je pense que c'est un laisser-aller général qu'il y a eu depuis des années. Une impunité grandissante. Et on s'est dit, bon, ça va peut-être passer. Et peut-être que c'est une mauvaise analyse de se dire, oui, nous sommes dans cette alternance, mais cette alternance, c'est dans le cadre, certains diront coalition, d'autres cohabitation, eh bien, nous passerons entre les mailles. Vous savez, on tablait sur pas mal de choses en se disant, oui, on n'aura peut-être pas un président aussi décisif comme il le faudrait, eh bien, voilà, n'en déplaise à beaucoup, nous nous rendons bien compte que nous avons un pouvoir effectif, un pouvoir qui a annoncé comme l'une des priorités la lutte justement contre la corruption, la mégestion, eh bien, ce pouvoir-là applique tout ce qu'il nous a annoncé qu'il allait faire.
Alors, le ministre, en fait, on parle beaucoup plus de lui parce que lui a au moins réagi. Et le ministre Blouméa s'est dit victime d'une cabale politique. Madame Angèle, au-delà de tout ce qui est dit, n'est-ce pas, toutes ces accusations formulées contre ces mandataires, est-ce qu'il n'y aurait pas parmi ces mandataires des boucs émissaires, à votre avis?
Je ne connais pas tous les dossiers, tous les détails des dossiers, mais je dis que quand on est un leader, on doit être à l'écoute de ses collaborateurs, de ses employés. Et quand les employés, de façon systématique, se plaignent de la mégestion et ces employés vous apportent des preuves qui montrent bien qu'il y a mégestion, je pense qu'il faut marquer un temps et écouter. Or, à quoi nous avons assisté depuis des années, c'est que les employés se plaignaient et quand ils osaient manifester, protester en face, par exemple, de l'entreprise, on leur envoyait la police pour les charger, leur lancer des gaz lacrymogènes, leur tirer peut-être dessus ou les arrêter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un climat délétère et c'était la descente presque aux enfers. Eh bien, aujourd'hui, les choses, on sent, vont changer.
Merci.
Et
merci.
Il était temps que ça change.
Merci, Maître Omar Kigalou, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Vous êtes analyste politique. Et comment vous analysez ces mesures prises par les chefs de l'État?
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté, pour le verbe que vous m'avez jugé. Merci à tous les auditeurs de la radio Capi. Je salue également l'intervention de mes co-débatteurs. Comme tout juriste averti, comme tout analyste politique indépendant, je salue ces mesures prises par les chefs de l'État. Je l'ai toujours dit, M. Guima, que le mandat politique n'est pas un mandat d'explication des discours, c'est un mandat d'action. Que les actions soient prises et pour révolutionner l'État, on ne peut qu'en encourager. Mais il y a une chose, je voudrais, avant de passer directement à la réponse de votre question épineuse, prélever quelque chose. Premièrement, il faut qu'on comprenne que dans un pays qui se veut de droit, le directeur des cabinets du chef de l'État n'est pas une autorité administrative principale. Il exécute les ordres, il n'a aucune décision. Je n'apprécie pas la manière spectaculaire où le directeur des cabinets passe pour donner les autres aux autres. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, mais les missions pédagogiques font un rappel. Deux, il ne faudra pas qu'on gère l'État par règlement des comptes. On a été aux affaires, on n'a pas été satisfait. Les autres ont été là. Aujourd'hui, on reprend les affaires pour faire souffrir les autres. Je parle honnêtement et scientifiquement en tant que juriste. Troisième chose, il faudra qu'on rappelle, l'histoire est têtue et les faits doivent s'en rappeler. À part Félix Tshisekedi qui n'a jamais géré, tous ceux qui sont là près de lui, directeur des cabinets, ministres, conseillers spéciaux, ont géré. On sait de quoi ils sont capables de faire. Par rapport à votre question, le président a pris des mesures, on les appelle en droit des ordonnances administratives. Il est permis à tout président, en tant qu'autorité administrative première dans un État décentralisé, de prendre des mesures. Deuxième chose, est-ce que ces mesures sont prises? Oui, mais en droit administratif, je parle en tant que juriste, lorsqu'une autorité prend une mesure, la personne vers laquelle la mesure est prise a des devoirs, mais il a aussi des droits. Il a des droits d'être entendu. On appelle ça en droit constitutionnel les droits de la défense. Est-ce que M. Douma l'a dit? Est-ce que les DG ont été entendus? Je ne les encourage pas et on doit combattre l'impunité, on doit combattre les détournements. Mais est-ce qu'on les a entendus avant de les sanctionner? Je ne pense pas. Je dirais à madame qui est sur le plateau, il ne faut pas se limiter à l'église.
Madame Angèle Makombo?
Madame Angèle combattue, je
Makombo.
Pense que c'est le mois de la femme, oui, mais il ne faut pas se limiter à léguer des faits. Il faut apporter des preuves qu'il y a eu des tournements. Acton Bikourit probas, comme on l'a dit en droit. Je ne suis pas contre cela, mais je veux que lorsqu'on accuse quelqu'un, qu'on l'entende, qu'on l'écoute, et qu'il puisse apporter des preuves avant de les sanctionner. À mon avis, par rapport aux recherches menées, il y a eu des sanctions sans entendre les gens qui ont été sanctionnés. Troisième chose, je voudrais parler à M. Doumalédi ou DG aux autres, et ce qu'on appelle en droit le droit des recours. Lorsqu'une personne se sent lésée par une autorité administrative, la décision qui a été prise, il peut introduire un recours gracieux. Monsieur le Président, la décision que vous avez prise ne m'a pas satisfait, il peut l'introduire. Il y a aussi les recours hiérarchiques, il y a aussi les recours judiciaires. Troisième réalité, M. Guimaté, le pouvoir judiciaire par rapport à notre loi fondamentale a le devoir de poursuivre toute infraction. Lorsqu'on parle de détournement, lorsqu'on parle de corruption, ce sont des infractions sérieuses et on doit les poursuivre. Il y a un problème très sérieux, M. Guimaté. C'est normal qu'on suspende, je suis d'accord. Mais première chose, je la rappelle encore, il faut apporter des preuves. On n'a pas dit à la RTNC lorsqu'on sanctionnait quelles sont les vraies raisons pour lesquelles on a sanctionné. Nous sommes d'accord qu'on sanctionne. Moi, en tant qu'un des anciens fils des agents de l'Olatra, je suis d'accord que ça ne marche pas. Mais quels sont les mécanismes qu'on a pris en place? On nomme un DG qui a trouvé un système sale. Que voulez-vous qu'on fasse? Il ne faut pas seulement se limiter à sanctionner, mais il faut rechercher les causes qui ont occasionné. Il faut éviter des décisions spectaculaires. Deuxième chose, il faut qu'on soit égal. La loi, je crois l'article 12 de notre constitution dit qu'il faut que tout le monde soit égal devant la loi. Lorsqu'on sanctionne les gens pour détournement, on ne doit pas se limiter aux gens qui ont géré, les ministres et le DG. Mais toute personne qui s'enrichit illicitement, nous avons dans ce pays des gens qui ont été chômés pendant un long moment et qui se sont mariés avec des sommes exorbitantes après la nomination de certains présidents ou l'élection de certains présidents. Est-ce qu'on les a interpellés ou... Il y a des gens qui sont ici, qui gèrent, je parle de la SONAT, les autres, les autres. Pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Nous sommes d'accord qu'il y ait des sanctions, nous sommes d'accord que les interpellations, on doit être égal. Dans un pays qui se veut de droit comme la RDC, à part les gens qui gèrent, une personne particulière qui a été au chômage pendant longtemps, qui s'enrichit, qui se marie de façon spectaculaire, on doit lui demander d'où vient l'argent de l'État. L'émission a comme mission pédagogique dans ces jours, lutter contre l'impunité, interpeller les gens et conscientiser, rationaliser la chose de l'État.
Maître Omar,
troisième chose, oui.
Oui, j'ai posé la même question à Mme Angèle Macombo. Quel intérêt un ministre aurait à refuser d'obtempérer aux ordres du chef de l'État?
Ça ne fait que reconforter et rendre force, je disais. Les ministres actuels ne font que gérer des affaires courantes. En droit, on dit l'intérêt est la mesure de l'action. En philosophie, on dit on ne peut rien faire dans le hasard. Toute action a un but. Dites-moi, dans quel intérêt un ministre qui est en train de gérer les affaires courantes, qui est en train de partir, qui n'a aucun pouvoir d'action, insubordonnerait une mesure prise par le chef de l'État? Il y a des anguilles sur roche qu'on doit en parler. Je suis d'accord qu'on suspende, qu'on sanctionne. La sanction a pour but de rationaliser l'action du chef de l'État ou l'action du gouvernement qui gère. Mais l'action doit avoir un fondement philosophique, pédagogique et juridique. Moi, je pense que cette sanction, je ne l'appelais pas parce que, un, à notre avis et à nos recherches menées, il n'y a pas eu le droit de la défense garanti à ces gens. Deux, on n'est pas égal lorsqu'on fait des sanctions. Il y a beaucoup de ministères qui sont mal gérés.
Merci.
Il y a beaucoup de qui sont mal gérés. On s'est limité à cela. Suspendre, c'est bien. Avertir, c'est bien. Pardon,
merci.
M. Guimaté, pour finir, je voudrais dire à Maître Gabin Loulendou, en droit disciplinaire, la suspension est une sanction. Il y a quatre sanctions en droit disciplinaire. Il y a le blâme, il y a l'avertissement, il y a la suspension, il y a la révocation. Dire que ce n'est pas une sanction, c'est grave. C'est une sanction à part entière. Voilà ma petite contribution dans ces limineurs de l'intervention.
Merci, Maître Omar. Maître Gabin Loulendou, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kinshasa.
C'est Gracie Mongo Manzongo, l'EIT depuis Kinshasa. Tenant compte des autres suspensions, c'est fort probable que les autorités subissent de telles conséquences. Car notamment pour le cas de la SCTP, on a assisté à de nombreuses marches qui clamaient la mauvaise gestion. Mais ce qui reste impressionnant et étonnant, c'est le cas du ministre des Affaires foncières qui serait suspendu pour l'insubordination. Celle-ci est due à quoi? Pourquoi l'on n'avait pas constaté cette fameuse insubordination lors de la gestion du régime précédent?
Maître Gabin Loulendou.
Alors, je ne sais pas comment on procède, je voudrais quand même rencontrer...
Vous commencez par réagir à la réflexion de l'auditeur, et puis vous allez réagir à ce que les intervenants ont affirmé ici.
Si on dit qu'il y a eu une subordination, ça suppose que les instructions lui ont été données et qu'il n'a pas obtempéré à ces instructions. Un certain nombre d'arrêtés ont été pris en violation de la loi. On a loti dans des endroits qui ne devraient pas être lotis. Il lui avait été demandé de rapporter ces arrêtés-là.
Il a résisté, il a refusé.
Il ne l'a pas fait.
Et quel intérêt il aurait à résister devant une décision qui vient du chef de l'État? Mais, lui, un simple ministre.
Mais posez-lui la question. Peut-être qu'il a eu à les faire avec les autres sans que la sanction ne tombe. Et que là, il est tombé tout simplement entre les mains des gens qui tiennent au respect de loi de la République. C'est tout simplement ça. Je vous ai rappelé la lettre, si vous lisez les termes de la lettre qui lui avait été adressée par l'actuel Premier ministre les 7 mai 2018, vous allez vous rendre compte que, effectivement, c'est un récidiviste, c'est quelqu'un qui n'obéit pas à l'autorité. Parce que le Premier ministre dit, après un rappel à l'ordre, à maintes fois, des rappels à l'ordre, des rappels verbaux à l'ordre, eh bien, on s'est rendu compte que vous avez continué à faire la même chose. C'est ainsi qu'une lettre de mise en garde lui avait été adressée.
Mais maître, vous êtes avocat, lorsque vous dites qu'il est récidiviste, là, vous accusez, alors qu'il y a ces principes des présomptions d'innocence.
C'est pour cette raison que je voudrais revenir sur un certain nombre des préoccupations qui ont été soulevées par mon confrère Omar Kigalou, que je voudrais quand même rencontrer très très rapidement pour besoin des nombreux auditeurs de la radio Okapi. Je pense que, estimé confrère, faut pas faire la confusion entre la suspension qui est l'une des sanctions disciplinaires avec la sanction qui est une mesure préventive. Ce sont deux choses différentes. Une sanction mesure préventive peut déboucher sur une sanction mesure une peine disciplinaire. Ça veut dire lorsque un agent commet un fait répréhensible, pour besoin d'enquête, on peut prendre une mesure, administrative qu'on appelle la suspension, qui est une mesure préventive sans que ça ne soit une sanction.
Voilà, on va pas rappeler tous les principes
du
droit. Je voudrais
juste terminer.
Oui.
À l'issue de cette suspension préventive, la personne va être entendue et si après l'avoir entendue, on s'est fait une idée claire, on s'est dit qu'effectivement les faits sont établis, en ce moment-là, on peut lui infliger une sanction de suspension qui, cette fois-là, devient une peine administrative.
Alors, Maître Omar a évoqué aussi les droits de la défense, n'est-ce pas?
Oui, mais c'est ce que je dis. L'action disciplinaire, qui est une mesure, qui est une action administrative, est différente de l'action pénale. Et les deux actions sont autonomes. Dans la mesure où on peut, prendre une sanction disciplinaire.
Sans avoir donné à la personne concernée l'occasion de pouvoir présenter ses moyens de défense.
Dans les cas d'espèce, le ministre n'a pas été sanctionné. Il s'agit d'une mesure préventive pour besoin d'enquête.
C'est pas une sanction.
Ce n'est pas une sanction administrative. Donc, quand
évidemment, c'est discutable.
Non, mais je vous dis ce que le droit prévoit. Lorsqu'un agent commet un acte répréhensible sur le plan administratif, on peut prendre ce qu'on appelle une mesure préventive en les suspendant préventivement. Mais cela ne signifie pas qu'il a été sanctionné. Mais à l'issue de cette suspension préventive, ça veut dire qu'il y aura l'ouverture de l'action disciplinaire. Cette ouverture de l'action disciplinaire va déboucher sur peut-être la suspension qui est une peine disciplinaire.
Merci, maître, nous avons compris. Madame Angèle Makombo, vous allez réagir à cette réflexion de monsieur Joël.
Joël Bongo Longondo, depuis Kinshasa. Les mesures qui suspendent les ADG des entreprises sont des simples mesures prises pour plaire d'une part et d'autre part tromper la vigilance de l'opinion tant nationale qu'internationale sur les vrais problèmes du pays. Si c'était des mesures objectives, la liste serait longue, car suspendre deux ou trois gestionnaires laisserait à penser à un Congo où la gestion est orthodoxe alors qu'il y a des oranges pourries partout. Tout ça, c'est chercher à vendre une bonne image politique alors qu'il n'y a rien de bon. Dommage pour les victimes de ces mesures terribles.
Madame Angèle Makombo.
Ma première réaction, c'est que cet auditeur est de mauvaise foi. Parce que
il a donné son point de vue, hein.
Voilà, mais
même si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut respecter ce
voilà,
point de vue.
Voilà, je respecte son point de vue, mais je le taxe de mauvaise foi parce que on n'a pas dit que on sanctionne deux, trois gestionnaires et c'est terminé. Hein? Le directeur de cabinet a bien dit, c'est le début d'un processus qui en aura d'autres. Il l'a dit. Il fallait écouter et on prend pas pour plaire. Et tout à l'heure, l'avocat qui a parlé, Maître Omar, parlait, il ne faut pas faire de règlement de compte. Là encore, c'est de la mauvaise foi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Tous les actes de mégestion qu'il y a eu, toutes nos entreprises qui ont été ruinées, il faudrait le nouveau régime mettre table rase, oublier, et puis on repart? Ah non! Justement, il faut sanctionner.
Alors, lorsque l'avocat Maître Omar dit qu'il ne faut pas se limiter à sanctionner, mais il faut aussi chercher à connaître les causes, n'est-ce pas, à la base de tous ces actes de détournement.
Exactement. Là, je suis d'accord avec lui et les audits nous permettront de connaître les causes parce que on sait très bien que une entreprise comme la SCTP était un canard boiteux, même avant l'arrivée de M. Moukoko. Ça, on le sait. Mais est-ce que les actions de M. Moukoko ont aggravé la situation? Ça, eh bien, on l'a suspendu et il sera devant la justice, il pourra se défendre. Lui-même, homme intelligent, a dit « Je m'en remets à la justice, je fais confiance à la justice, je sais que l'audit va me blanchir ». Donc, attendons de voir. Mais de là à dire que oui, c'est un règlement de compte, oui, c'est un nouveau pouvoir qui veut faire souffrir les autres. Mais enfin...
Et donc, ces décisions ne seraient pas motivées par des impératifs politiques,
mais
non?
Mais pas du tout. Ce sont des faits. Écoutez, comme je vous ai dit, écoutez d'abord vos employés, les personnes pour qui vous travaillez. Année après année, elles ont ces personnes ont crié leur désespoir, certaines ont même enquêté, ont alerté les pouvoirs publics. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, quelque chose est fait. Il faut plutôt saluer ça plutôt que de parler de souffrance. Qui souffre là là-dedans? Est-ce que c'est pas les employés plutôt que les dirigeants qui aujourd'hui sont acculés parce que il y a des preuves contre eux?
Merci. Merci, Maître Omar Kingalou. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Lissala.
Ingénieur Félix Moussaka, depuis la ville de Lissala, dans la province de la Mongala. À mon humble avis, cette décision est salutaire pour que la RDC retrouve son sens de la justice. Certains mandataires de l'État croient être au-dessus de la loi. Or, ce n'est pas le cas pour l'actuel régime. Il est impérieux de rendre toujours compte de ses actes à chaque instant quand on gère la chose publique. Je recommande au président de la République de poursuivre dans ce même élan et d'étendre ses décisions dans divers services de l'État, même au niveau provincial, pour combattre l'impunité qui a eu domicile dans l'appareil étatique congolais.
Maître Omar Kingalou. Allô, Maître Omar Kigalou, apparemment, nous l'avons perdu. Et Maître Gabin Loulendou, vous pensez que ces mesures suffisent-elles à mettre un terme, effectivement, à l'impunité dans ces pays où il faut plus que ça?
D'abord, c'est les débuts. Le directeur du cabinet du chef de l'État l'a dit, ce n'est qu'un début. Encore que le directeur des cabinets n'a pris aucune décision. Il est venu rappeler la décision qui a été prise par l'autorité compétente. C'est pour cette raison que le reproche qui lui est fait en disant « les directeurs des cabinets ne devraient pas prendre des décisions contre les autres », il n'a pris aucune décision. Il s'agit des ordonnances qui ont été prises par le président de la République. Il est venu relayer la volonté du président de la République qui s'est exprimé par ces ordonnances. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un début et plus on avance, plus les gens comprendront que le sérieux a commencé et qu'on ne peut pas se mettre à voler l'argent de l'État. Si on ne commence pas aujourd'hui en disant oui demain, demain ce sera après-demain, et en 2023 on va demander au président de la République des comptes. C'est pour cette raison qu'il prêche par l'exemplarité en disant c'est vrai, d'autres fois les gens se comportaient de cette façon-là, mais ces temps-là est révolu aujourd'hui parce qu'on veut prêcher par l'exemple.
Au-delà de ces mesures, n'est-ce pas, il y a ces processus des réformes de la justice qui n'évoluent pas comme il s'y devait. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi accélérer ces processus?
Mais c'est pour
qui a commencé il y a plusieurs années.
C'est pour cette raison que, comme il ne peut pas se substituer au juge, qu'est-ce qu'il fait? Il constate que des actes répréhensibles ont été commis. Il prend ses responsabilités, mais il demande que la justice fasse son travail. Ça veut dire maintenant, c'est la redevabilité. C'est pas comme autrefois, on pouvait amener des dossiers bien documentés, on dépose devant le bureau du procureur général de la République, il pouvait ne pas réserver une suite à cela sans assez justifié quant à ces temps-là est révolu parce que maintenant ce que nous attendons c'est que si la justice dit que le monsieur est coupable, eh ben elle devra le condamner. Mais si la justice estime que la personne n'est pas coupable au regard des éléments fournis, la justice devra l'acquitter. Donc c'est tout simplement pour dire que le président de la République est conscient que si nous ne commençons pas par poser des actes comme ça, est-ce que c'est normal qu'on vous dise qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant 50 mois et n'ont pas été payés comme à la SONAS? En même temps, on vous dit qu'on a détourné autant des millions de dollars. Vous êtes président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, vous restez les bras croisés en disant « Oui, mais la présomption d'innocence est conservée parce que personne ne sera condamné si cette personne n'a pas été entendue. » C'est aussi simple que cela.
Merci, Maître Omar Kigalou. Est-ce que vous êtes là?
Je suis là, M. Guimard.
Est-ce que vous avez suivi la réflexion de l'auditeur de l'ISALA?
J'ai suivi, il a dit que la décision est salutaire. Je l'ai également dit, M. Guimard. Nous voulons qu'il y ait des actions et non des explications. Nous voulons qu'il y ait des vrais discours qui passent par des actions concrètes. Mais seulement, je pense que nous devons être rationnels quand nous agissons. Il faut éviter des décisions spectaculaires. Par exemple, vous voulez qu'on libère les gens. Il y a des gens qui ont violé. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit commettre des infractions et être libéraux au nom d'une paix politique. La vie humaine est sacrée, elle doit être protégée. Deuxième chose, il faudra qu'on assainisse la gestion de l'État avec les mécanismes sérieux. On a traité une entreprise vieille, boiteuse. On a initié des réformes depuis 2008, ça ne marche pas. Au lieu de vous limiter à chercher les vraies causes. Troisième chose, il faut qu'on généralise la sanction. Je suis d'accord, le Congo ne marche pas, rien ne marche, mais la responsabilité est partagée. Il faudra, lorsqu'on sanctionne les ministres qui ont mal géré, qu'on sanctionne l'individu qui a été dans l'opposition pendant longtemps, qui s'est marié avec des sommes exorbitantes. Quatrième chose, je voudrais très cher monsieur.
Maître Omar, vous revenez beaucoup sur cet individu qui a été dans l'opposition, mais qui s'est marié avec des sommes exorbitantes. Vous faites allusion à qui?
Monsieur Guimate, vous connaissez monsieur Bernard Tapie. Avant d'arriver au Congo, Bernard Tapie a été président de Marseille. Ce monsieur aujourd'hui a ruiné parce qu'il a géré. Je parle de monsieur Vital Kamerhe, qui a été à l'opposition depuis longtemps, qui s'est marié à
Les mariages d'un individu n'ont rien à voir avec les débats d'aujourd'hui, les sujets d'aujourd'hui.
Mais l'argent luxueux, on a filmé le mariage, on a mariage dans le film partout.
Et donc en fait, moi je ne prends pas la défense de M. Kamerhe, mais vous pensez que quand quelqu'un a été dans l'opposition, il n'a pas le droit d'avoir les moyens de pouvoir se marier, c'est ça?
Je vous réponds à la même question. Quand on a géré les affaires de l'État, c'est parce qu'on a tellement détourné.
Maître Omar, revenons sur le débat du jour. Est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises pourraient mettre un terme, n'est-ce pas, à l'impunité, ou vous pensez qu'il faut plus que ça?
Je ne voulais pas discuter, j'ai répondu parce que j'ai beaucoup de respect à la radio Capi. Deuxième chose, je pense que ces mesures sont salutaires, comme vous l'avez dit, mais ne sont pas très efficaces. La meilleure manière de lutter contre la corruption est de mettre en place des mécanismes forts, renforcer la justice, assainir la gestion avec des personnes compétentes et intègres, pas des gens qui ont détourné dans ces pays. Deuxième chose, il faudra être égalitaire lorsqu'on prend des sanctions. Et troisième chose, enfin, il faudra moraliser l'action publique.
Merci.
En mettant des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense que cela pourrait accompagner. Nous sommes d'accord avec le chef de l'État, avec son directeur cap et ministre.
Et en conclusion, Maître Omar, en conclusion.
Le mandat public, gestion est un mandat d'action. Il faut que les actions soient faites.
Merci.
Lorsqu'on agit, on doit comprendre l'action des mécanismes forts, car en politique démocratique, ce ne sont pas les individus qui comptent, mais les mécanismes et les actions fortes.
Merci, Madame Angèle Macombo. Nous allons conclure. C'est quoi votre conclusion?
Ma conclusion, c'est, je le répète, le changement, c'est maintenant. Et mettre en marche la fin de l'impunité nous permettra vraiment de dégager les moyens nécessaires pour le développement de ce pays.
Maître Gabriel Oulendo, votre conclusion?
Je dis tout simplement que le confrère Omar est à côté de la plaque parce que s'est marié signifie qu'on a détourné l'argent, alors que juriste, avocat de son état, il ne pouvait même pas arriver à des conclusions très simples et simplistes des choses. Et en fin de compte, c'est que ces actions sont importantes et on devra les poursuivre.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Goy qui était à la technique et à Kelly Nkoute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission. À la présentation, Guy Maté, bonne suite de programme sur Radio Capital.